Eh bien, comme d'habitude, chers amis, nous voulons implorer le secours du Seigneur. Mais avant de lui parler, je vous lirai un texte qui est capital, parce qu'en Orient, quand on est reçu par un roi, on ne prend pas la parole avant que lui nous ait adressé un mot. On laisse d'abord le roi nous parler, puis ensuite on lui fait notre demande. Alors, cette parole, vous la connaissez, mais comme elle est très importante, je vous la relis, j'espère qu'elle sera dans vos cœurs et fixée dans votre sensibilité. Vous l'avez lu hier dans le chapitre 6, 1 de Jean, et elle est capitale. Après le discours du pain de vie, verset 60, plusieurs de ses disciples l'ayant entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'ouïr? Et Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient là-dessus, leur dit, ceci vous scandalise-t-il, si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Et c'est cette parole, je la laissais dans son contexte, verset 63, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites, donc c'est tout ce récit, sont esprit et sont vie. Mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne croient pas. Donc, un de nos grands obstacles à l'incompréhension des paroles de Jésus, c'est notre incrédulité. Je vois que nous marchons ensemble. Alors nous voulons prier. Ô notre Dieu, tu sais en effet que nos cœurs sont particulièrement incrédules. Alors nous voulons nous en humilier et te confesser notre incrédulité. Et notre prière dans cette journée, c'est que par ton esprit, tu fasses de la scène ou de l'Eucharistie que tu as instituée ce que tu as voulu qu'elle soit. Et quand tu l'as instituée, rends-nous compte que si tu nous permets de nous réunir cet après-midi, nous ne consommerons pas un mythe, parce qu'il est question d'un événement historique et que par ce souvenir, nous participions à l'histoire même du salut dont nous ferons mémoire autour de ta table. Pour la gloire du Père, au nom du Fils et par la toute-puissance du Saint-Esprit. Maranatha. Amen. Alors avant même de répondre aux questions que vous avez en page 8, 9 et 10, et peut-être à celles que vous aurez pu ajouter, j'aimerais vous demander très affectueusement si vous avez lu toutes les pages verte que je vous ai remis pour cette retraite. Il y en a combien? 12. Il y en a 12. Et si peut-être on n'a pas parlé de toutes les pages, elles étaient quand même là pour être lues. Je veux l'espérer. Et si vous ne l'aviez pas fait, eh bien, je vous convie à le faire. Alors, je vous demanderai, avant même de répondre aux questions, parce que ça va nous aider, prenez la page 3. J'ai fait un petit reliage, un petit brochage qui permet que toutes les pages soient ensemble. Alors, vous les avez, hein. La première, c'est le programme, et puis ensuite, vous avez la page 3, après la page 2, après le samedi matin. Et qu'est-ce que nous lisons là ? Dans la nuit où Jésus fut livré. 1 Corinthiens 11, verset 23. Et je disais ceci, l'Épître aux Corinthiens est l'écrit le plus ancien qui parle de l'institution de la scène. Donc c'est le premier écrit qu'on a sur l'institution de la scène, puisque ça a été écrit environ 56 après Jésus-Christ. Ce texte a donné lieu, je le disais, à de nombreuses controverses, et il est utile de l'étudier dans son rapport exact avec les évangiles dits synoptiques, les trois premiers évangiles. Et nous ajoutions que l'indication chronologique, la nuit où il fut livré, que nous trouvons dans les Corinthiens, ne nous dit rien sur le jour et la date du dernier repas du Seigneur, ni sur le fait qu'il s'agissait d'un repas pascal. Mais en relisant ces paroles, à la lumière des textes des évangiles, les événements du soir solennel où fut pris ce souper, se déroule vraisemblablement dans l'ordre suivant. Et là, j'ai vu que Scofield avait fait un effort pour classer ces événements, et je vous cite Scofield. Ça peut peut-être s'être passé un peu autrement encore, mais enfin, c'est quand même bon d'en avoir une idée. 1. Jésus partage la Pâque avec les apôtres et leur reproche leurs disputes. Et vous avez les textes que vous avez déjà lus. Matthieu 26, 20, Marc 4, 17, Luc 22, 14 à 16 et 24 à 30. 2. Jésus lave les pieds de ses disciples. Deuxième chose. Jean 13, verset 1 à 20. Il se lève de table, donc il n'avait pas encore célébré la table, on s'était assis, mais personne n'avait fait le service du lavage des pieds, qui en Orient était une nécessité. On s'était assis, les disciples étaient préoccupés de quoi ? D'abord, d'être à leur place, et peut-être le plus près de Jésus, et personne n'avait pensé au service. Alors, ce Dieu au cœur de mère se lève comme une mère qui voit que les enfants ne font pas le service et se met à faire ce qu'ils auraient dû faire. Il leur a lavé les pieds, leur donné un exemple. Hein. Bon. Troisièmement, Jésus, après ce lavage des pieds, dont Judas a eu les pieds lavés, Jésus dévoile le traître Judas. Matthieu 26, 21 à 25. C'est cela que vous devriez faire à la maison. Prendre une feuille de papier, écrire tout ce qu'il y a dans Matthieu, prendre une autre, puis mettre à côté tout ce qu'il y a dans Marc, puis vous faites des comparaisons, puis tout ce qu'il y a dans Luc. Et vous voyez ce qui est ajouté, ce qui n'a pas été dit dans telle version. Et vous voyez que ce n'est pas contradictoire. Et puis, Luc 22, donc, versets 21 à 23. Et puis, quand même, même s'il n'y a pas l'institution de la scène dans Jean, lisez ce chapitre 13, versets 21 à 29, où vous trouvez, au fond, le testament spirituel du Seigneur. Quatrièmement, Jésus laisse partir Judas, qui se retire, Jean 13, 30 à 38. Et dès qu'il s'est retiré, qu'est-ce qu'on voit en Jésus? Un soupir de soulagement. Et il continue alors de parler aux disciples une fois que Judas fut sorti. Et alors, tous les autres disciples affirment leur loyauté. 5. Jésus institue la scène, Matthieu 26, versets 26 à 29, Marc 14, 22 à 25, Luc 22, 17 à 20, et 1 Corinthiens 11, 23 à 34. 6. Jésus exhorte les 11 dans la chambre haute. C'est le chapitre 14 de Jean. 7. Jésus instruit à nouveau les 11 sur le chemin de Gethsémané. Après le 14 de Jean, il dit « Levons-nous, partons d'ici ». Et ils s'en vont sur le chemin, et c'est en chemin, et ça se trouve c'est merveilleux, quand ils allaient à Gethsémané, que le Seigneur a donné son enseignement sur les vignes. Et il y avait des vignes. « Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments ». C'était une belle soirée, et ils s'en allaient, et dans le chemin, il leur expliquait encore cette merveilleuse image du cep et des sarments. C'est lui qui est le cep, nous sommes des sarments, et puis le vigneron taille tout cela, puis ils arrivent donc à Gethsémané. Donc chapitre 15 et chapitre 16 a été dit au cours de cette dernière promenade, enfin, qui les conduisait à un but à Gethsémané. Et là, on voit Jésus qui intercède auprès du Père pour les siens. Si vous préférez qu'il ait fait la prière encore dans la salle, ça c'est votre affaire. Mais il faut quand même voir qu'il y a un certain ordre. Et Jésus expose à son Père cette merveilleuse prière, moi qui me bouleverse chaque fois, où cette fois nous sommes identifiés à Jésus lui-même. Et là, n'est-ce pas, ce n'est pas simplement un enseignement du Seigneur, mais je vois Jésus, la nuit qu'il fut livré, sachant tout ce qui allait lui arriver, il déverse son cœur dans le cœur du Père. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » C'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale, hein, où le Seigneur nous présente. Et ensuite, 9, Jésus subit alors les angoisses dans le jardin de Gethsémané. Il a demandé à trois de ses disciples de prier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont endormis après avoir promis qu'ils le suivraient partout. Et Jésus les réveille. Mais voilà déjà que Judas, il a fallu du temps quand même à Judas. Donc il avait dû quitter le cénacle pour aller cette nuit-là, il sortit quand il était nuit, pour aller trouver les chefs du peuple qui lui avaient donné 30 pièces d'argent pour sa trahison et pour qu'il puisse prendre la tête de la cohorte qui allait pour arrêter Jésus. Et je vous ai mis tous les versets. C'est juste pour que vous ayez un peu une idée de ces événements quand vous avez simplement cette parole « la nuit qu'il fut livré ». Et si vous aimez faire des études bibliques, eh bien étudiez les nuits de l'Écriture. Hier, on en a vu une, la nuit de Pâques. Mais on pourrait en prendre aussi dans la Genèse, la nuit de Sodome, chez Lot, où l'on a fait aussi un repas, et la fameuse histoire de la femme de Lot, la nuit où il fut livré. C'est passionnant, les nuits. Il y a la nuit de Belshazzar, hein, dans Daniel, puis il y en a d'autres de nuits. La nuit de Jacob, au torrent de Chabok. Les nuits de l'Écriture. Il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'on peut dire de l'Écriture? Mais étudiez la parole et cherchez à comprendre l'application que cela peut avoir pour vous aujourd'hui parce que la parole, elle est vivante, elle est permanente. Elle est inspirée de Dieu, nous la croyons normative pour tous les temps. Même dans ce monde où l'on parle du nouvel âge. Ce nouvel âge. Hitler voulait faire un nouveau monde. Il est mort. Mais le monde continue. Et la parole de Dieu demeure éternellement. Alors, bon, si vous ne l'aviez pas lu maintenant, vous l'avez lu, page 3, hein? Ou je vous l'ai lu, ou relu peut-être. Mais c'est dans la nuit où il fut livré. Il y a quand même une certaine indication chronologique à la lumière des évangiles et de l'épître de Paul. Alors, est-ce que vous avez lu la page 5? Le repas du Seigneur, c'était le titre, hein, de notre fin de semaine. Et cette expression, vous savez qu'elle se trouve dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains au verset 19. Et là encore, je dirais ceci, c'est que tous les lecteurs de la Bible savent que le repas revêtait une très grande importance dans les temps anciens. Et qu'il en est toujours ainsi dans de nombreux pays. Vous savez, j'ai voyagé pas mal, j'ai été invité chez des bouddhistes, j'ai été invité chez des musulmans, j'ai été invité chez des catholiques, j'étais là-bas aussi au Moyen-Orient, et on est toujours surpris de l'hospitalité, même dans un train entre Alger et Oujda, une famille arabe est venue, moi j'étais très mal, mais la première chose qu'ils ont fait, c'était de m'offrir une partie de leur pique-nique. Et j'étais vraiment mal, et ça ne me disait pas tellement de manger, mais je l'ai quand même fait parce que ça aurait été les offenser. Alors, selon les principes anciens que nous retrouvons dans les Écritures, quand on invitait quelqu'un à un repas et qu'il acceptait votre hospitalité, il s'engageait envers vous et vous envers lui. Comprenez-vous? C'est quelque chose que vous devez bien comprendre. Inviter quelqu'un à un repas, c'est pas une simple politesse. Hein. C'est vraiment qu'on s'engage l'un avec l'autre. Et alors là, de nouveau, si vous prétendez quelquefois n'être pas nourri dans votre milieu, eh bien, nourrissez-vous vous-même et étudiez les repas à travers les Écritures, hein, comme on peut étudier les nuits à travers les Écritures. Manger un repas avec quelqu'un, il y a une expression que je trouve formidable, c'est une expression qui revenait souvent, c'était manger le sel avec lui. Ma femme n'est peut-être pas très contente parce qu'elle aime pas que je mange le sel. Mais enfin, c'est l'expression biblique manger le sel avec la personne. C'est pourquoi on rencontre cette expression le sel de l'alliance. Je n'invente rien, Lévitique 2, verset 13. On appelait ça le sel de l'alliance parce que dans un repas, il y a une alliance. Et le sel symbolisait cette alliance. Le sel est bon. Hein? Le sel est bon. C'est Jésus qui l'a dit cela. Mais il n'a pas dit qu'il fallait en boire en tonneau. Bon. Alors, il serait vraiment intéressant d'étudier à ce sujet. Je prends quelques repas, je l'ai dit déjà, dans le livre de la Genèse, comme aussi dans la loi et les prophètes, il y aurait le repas d'Abraham, avec des grands de ce pays, le repas d'Isaac, les repas de Jacob, puis les repas de Joseph aussi, quand il invitait ses frères. Il y a beaucoup à apprendre dans tout cela. Et on arriverait au repas de Jésus, et on pourrait s'arrêter aux enseignements que Jésus donnait dans les évangiles au sujet des repas, et puis la grande parabole des invités, la parole du grand souper. venez, car déjà tout est prêt. Et qui a été repris par la liturgie chrétienne au moment de la scène. Venez, car déjà tout est prêt. C'est une parole de l'Écriture, vous la connaissez. Et puis la réponse, Seigneur, je ne suis pas digne. Voilà ce que disent les gens, c'est une autre parole biblique, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mais vous voyez, il ne faut pas que ça soit mécanique, il ne faut pas que ça soit machinal, mais le repas du Seigneur, c'est lui qui l'a préparé. Et il dit, venez, car déjà tout est prêt. Mais qui était invité? Ben, les invités officiels, ils ne sont pas venus. Alors, il en a invité d'autres. Mais à l'institution de la scène, qui est-ce qui était là? Seulement ses disciples. Et l'on verra ce qui en a été de Judas. Alors, voyez, il ne faut jamais isoler un verset de son contexte. On veut toujours voir les choses avec la lumière de toute l'Écriture. Mais c'est pour vous dire qu'il y a bien des expressions que vous connaissez, peut-être que vous reniez parce que vous avez quitté telle ou telle église, mais qui étaient juste dans un sens. C'est la parole que le Seigneur a dite qui nous purifie et qui nous permet de nous approcher. Sans ça, s'il n'y avait pas sa parole, si je ne savais pas que le Seigneur est digne que je réponde à son appel, je ne m'avancerais pas. Parce que j'ai le sentiment très fort de la sainteté du Seigneur, et je suis un pécheur. Mais il est mort pour mes péchés. Je sais que le sang est là. Et que ce qui compte, c'est que je m'éprouve moi-même, et que je confesse mes péchés, et que je puisse m'approcher de lui. Alors, en page 5, donc, j'ai souligné quelques repas où a participé le Seigneur, et j'aurais pu même ajouter à la fin les repas avec le ressuscité et aller jusqu'à l'Apocalypse qui nous parle d'un festin, les noces de l'agneau. Est-ce que vous y êtes invité? Oui, et j'espère que c'est votre joie de penser que vous êtes conviés aux noces de l'agneau. Mais vous voyez comme l'Écriture est riche. C'est nous qui sommes dit desséchés. Mais quand on est plongé dans l'Écriture, eh bien c'est une eau abondante qui nous renouvelle et qui peut faire germer ces merveilleuses semences de l'Écriture. Alors, dans cette page 5, nous avons vu plusieurs repas et que même dans les repas, Jésus évangélisait, Jésus donnait des explications. Il nous disait qu'il ne fallait pas prendre la première place. Il les avait enseignés. Il fallait plutôt prendre la dernière pour entendre celui qui nous a invités nous dire « Ami, monte !» Plus haut, vous voyez comme il est bon, le Seigneur ne voudrait pas nous humilier. C'est pas vrai. Jésus ne se plaît pas à nous humilier. Mais c'est nous qui sommes tellement orgueilleux, nous nous mettons en avant, nous prenons la place. Alors que la vraie place, la bonne place, c'est celle qu'il a choisie pour nous. Est-ce que tu es à ta place? Oh non, moi je voudrais une autre place. Si c'est lui qui m'a mis là, j'en serai heureux. Et voyez-vous, il y avait deux disciples qui voulaient avoir la place, et puis plutôt leur mère qui demandait ça à Jésus pour son cher Jean, son petit Jean et son grand Jacques. Que Jacques soit à sa droite et que Jean soit à sa gauche, Jésus leur dit, c'est pas moi qui peux faire ça, c'est mon Père qui est dans les cieux, n'est-ce pas? Et puis, j'ai toujours pensé à ce verset de Deutéronome qui remet tout en place, eh bien, ils se tiennent à tes pieds. Alors, au pied du Seigneur, on a tous la place. On a tous la place quand on est au pied du Seigneur. C'est pas important d'être à sa droite ou à sa gauche, c'est d'être à ses pieds. Et vous avez de la place pour tous. Et on ne s'envie pas, on ne se jalouse pas, on est tous par terre. C'est beau ça. C'est la parole de Dieu qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous édifie. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur les repas. Et alors, vous avez vu que le repas, vraiment, qu'on peut appeler le repas du Seigneur, il est bien question, d'après les évangiles, que c'est ni les noces de Cana, ni une autre invitation, pas même celle de Béthanie chez Simon le lépreux, où il a reçu l'onction d'huile de Marie, qui aimait l'écouter, mais c'était le repas des azimes, le repas de Pâques. Hein? Et alors, nous passons maintenant plus loin à la page 7e. Hein? Vous l'avez lu? Oui. Où j'ai essayé de vous donner différents sens qu'on a attribués à ce repas du Seigneur. Et je souligne que les Corinthiens, donc, ils prenaient la scène et ils pensaient qu'ils célébraient le repas du Seigneur. Mais Paul a reçu une lettre où on l'a questionné là-dessus, mais c'était quelque chose qui était bien établi dans toutes les églises. Il l'avait enseigné aussi, mais il y avait des abus, parce que les premiers chrétiens, évidemment, se convertissant au Seigneur, ils étaient rejetés par les Juifs, ils étaient rejetés aussi par les païens, ils étaient donc très isolés, de sorte qu'ils aimaient à se retrouver, et c'est ce qui a créé qu'on appelle les agapes. C'est encore un mot que j'aurais pu mettre. L'agape. Et alors, les agapes se terminaient habituellement par le repas du Seigneur, ou le repas du Seigneur se prenait au cours d'une agape, puisque Jésus avait institué ce mémorial de ses souffrances dans un repas. Quand on faisait une agape, eh bien, il y avait toujours le repas du Seigneur. Mais comme ce qui est confié aux mains des hommes dégénère toujours, eh bien, il y avait des gens riches qui venaient à ces agapes avec leur pique-nique, mais pas avec les sentiments du petit gars qui a donné les cinq pains et les deux poissons au Seigneur pour qu'il les multiplie. Ils se mettaient à une certaine table avec les gens de leur milieu, et puis ils mangeaient bien, et ils buvaient bien, à un point que Paul dit qu'il y en a même qui s'enivraient, n'est-ce pas? Et il venait quand même du paganisme, et il y avait toutes sortes d'orgies avant. Alors, vous savez, ça ne fait pas une transformation toujours d'une façon radicale, mais ils n'avaient pas encore compris qu'ils étaient tous frères. Et alors, quand les pauvres arrivaient, avec leur tout petit pique-nique, il y en a qui avaient faim, et puis c'était plus du tout le repas du Seigneur. Et c'est à cause de ces abus que l'agape a été séparé du repas du Seigneur, ou qu'on a séparé le repas du Seigneur des agapes, parce qu'il y avait trop d'abus. Comprenez-vous? L'agape, c'est quelque chose de très bien, mais si c'est pour créer des jalousies, au lieu de manifester l'unité du corps de Christ, qu'est-ce que ça manifeste? Les dissentiments, les querelles, toutes les œuvres de la chair. Alors, il y a des gros bons hommes là, qui mangent beaucoup, et puis il y a des petits maigres laits. Bon, alors, ça va pas. Bien. Et alors, on a beaucoup à apprendre. Donc, à ce sujet. Alors, à la page 7, donc, j'ai mentionné des divers sens qu'on a donnés au repas du Seigneur au travers du temps de l'Église. Et voyez-vous, au début, comment est-ce qu'ils ont compris cela, les disciples? Bien, dans le chapitre 2 des Actes, pénétrez-vous de cela, ils se réunissaient parce que on les repoussait de partout. Alors, chaque jour, ils étaient ensemble dans les maisons, ils partageaient leurs biens. Donc, au début, il y avait vraiment une communion merveilleuse, ce qu'on a appelé le communisme chrétien, qui est très différent du communisme athée, puisque le communisme athée, sa devise, c'était « ce qui est à toi est à moi », puis te prend, n'est-ce pas? Tandis que le communisme chrétien, ce qui est à moi, est à toi. C'est le communisme du don, n'est-ce pas? Mais évidemment, il y avait un certain communisme dans l'Église primitive. Et on a des exemples de Barnabas, par exemple, qui vend une propriété et qui en apporte le prix au pied des apôtres. Mais quelqu'un qui veut imiter Barnabas alors qu'il n'a pas la même foi, comment est-ce qu'il s'appelle ?
Anania.
De connivence avec qui ? Sa femme, Saphira, hein. Il veut le faire comme l'autre a fait, parce que ça me fait bien quand même faire un bon don à l'Église, mais ils en gardent une partie. Pourquoi ? Il faut bien une poire pour la soif, n'est-ce pas ? Au cas où. Mais ils avaient le droit de faire ça, ils avaient le droit de garder une partie. Mais ce qu'ils n'avaient pas le droit, c'est de faire croire qu'ils donnaient tout. C'était des menteurs. Là, ils prenaient la scène indigne. Le Seigneur ne vous met pas sous une loi stricte. Maintenant, il y en a qui sont écœurés parce qu'on leur dit c'est la dîme sur eux, le salaire brut ou je ne sais trop quoi, tout ce qu'on raconte dans les appels d'argent. Eh bien, voyez-vous, c'est une affaire personnelle que vous avez à avoir avec le Seigneur. Bien sûr qu'il y a un enseignement, qu'il y a une indication dans l'histoire de la dîme, mais nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et au fond, ce que le Seigneur nous demande, c'est tout. Et puis, il donnera ce qui est nécessaire aussi, jour après jour. Voyez-vous, il nous faut retrouver cet équilibre. Et quand on voit toutes les demandes d'argent qui sont faites à droite et à gauche, eh bien, c'est triste, parce que le Seigneur nous a indiqué autre chose. Quand tu as un besoin, entre dans ta chambre, ferme la porte sur toi, prie ton Père qui voit dans le secret et il te répondra. Et il y a des réponses tellement merveilleuses qui nous bouleversent et qui nous maintiennent dans la vie spirituelle. Parce que le Seigneur est un Seigneur de grâce qui connaît les besoins et il sait que si ce n'est pas pour nous que nous demandons, parce qu'il nous a promis le nécessaire. Regardez, considérez l'Église des Champs. Ne vous mettez pas en souci, ce qui m'a fait comprendre que moi, qui suis un être soucieux, quand je me mets en souci, je pêche, parce que je transgresse la parole du Seigneur. Je ne fais pas confiance au Seigneur, ben c'est un péché, ça contrise le Saint-Esprit, alors que je devrais lui faire confiance. Oui, mais je voudrais que ça soit ce soir. Puis voilà que le lendemain matin, je vois que c'était avant ce soir, parce que ça avait été envoyé. C'est quand même merveilleux, le Seigneur nous écoute. Avant qu'il crie, je répondrai, pendant qu'il parle, j'exaucerai. Moi, j'ai laissé tomber ma bourse dans le bureau de la sœur, je le dis, je rentre à la maison, je devais payer à la librairie pour les livres qu'on prend, et puis je vois que je n'ai plus ma bourse. Alors je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? On avait eu un peu de secousse pendant le voyage, et puis mon porte-monnaie, il n'y a pas de bouton de ce côté-là. Je ne sais pas si vous avez les mêmes pantalons, nos chers frères. Eh bien, la bourse était tombée. Mais je me suis dit, elle est tombée, je ne la trouverai plus. Mais je me suis quand même mis à genoux. Puis j'ai dit, Seigneur, tu m'as déjà tellement répondu de foi, mais ça, c'est ma faute. Mais j'ai dit, tu pourrais quand même me donner une réponse. Mais je ne suis pas allé à mon répondeur. Enfin, j'avais un répondeur, parce que j'avais été absent. Et puis, voilà, tout à coup, on me téléphone. La sœur avait déjà téléphoné à Madame Badet parce que elle avait trouvé le porte-monnaie sur le coin de ma chaise. On avait parlé du Seigneur tellement vivement, on était heureux ensemble, que après les secousses, mon porte-monnaie. et puis, moi je disais au Seigneur quand même, pourquoi c'est quand même pas pour moi que je fais ça, alors pourquoi c'est arrivé? Puis, la sœur avait pensé, vous voyez comment ça pense, les sœurs. Elles ont de bonnes pensées. Elle s'est dit, Séraphine va s'apercevoir qu'il n'a pas son porte-monnaie, mais il n'ira pas à son répondeur. Alors, elle a téléphoné à Madame Badet pour que Madame Badet me dise qu'elle avait trouvé le porte-monnaie et qu'elle le gardait ici pour mon retour. Alors, et qu'elle a, c'était sur le répondeur. Je m'en vais au répondeur. Et c'était ça. Mais le Seigneur a voulu que je prie d'abord. Mais j'ai su qu'avant qu'il prie, il m'avait répondu. Pendant que je parlais, j'étais déjà exaucé. Le message était arrivé tout de suite. Mais il n'était pas mal consisté. Comprenez-vous ? C'est ces petits exemples et qui nous montrent que le Seigneur est dans le détail. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui nous empoisonne dans la vie ? Ce n'est pas tellement les grandes choses, il n'y en a pas tellement de grandes choses. Hein. C'est surtout le détail. Ça nous irrite, ça nous tente, on se juge, on se condamne. Puis on se dit, qu'est-ce que ma femme va dire ? Non, mais il y a toutes sortes de pensées qui nous traversent. Nous sommes humains, nous sommes des hommes, nous sommes des êtres aux mêmes passions que tous. Alors, revenons à nos moutons maintenant. Hein. On était à la page 7. Donc, au début, dans l'Église primitive, il y avait vraiment la vraie communion, ils persévéraient dans la doctrine, dans la fraction du pain, donc c'est la communion, et dans les prières, et dans la communion fraternelle. Mais, quand on lit l'histoire de l'Église, on s'aperçoit qu'il y a eu des schismes. L'Église, qui était vraiment catholique, qu'est-ce que ça veut dire catholique ? Universelle. Qui était vraiment apostolique, qu'est-ce que ça veut dire ? Elle suivait les apôtres. Elle était vraiment une. C'est vrai, il y avait une communion en toutes les églises, Jérusalem et les autres églises. Une catholique apostolique. Nous sommes cela, nous voulons être cela. Mais qu'est-ce qui est arrivé ? Elle est devenue romaine quand ? Avec Constantin, je ne peux pas vous faire un cours d'histoire ecclésiastique. Et puis on a baptisé tout le monde, le christianisme a triomphé. Apparemment, c'était quelque chose de fantastique, mais j'ai entendu bien des théologiens catholiques qui disent « Malheur à cette histoire de Constantin, c'est ça qui a tout perdu. » Parce qu'alors, c'était Rome qui était la capitale, et puis, alors évidemment, c'était la grande ville, et on a imité, au fond, toute la hiérarchie romaine, et on l'a mise dans l'Église, et c'est là qu'a commencé ce désastre, où l'Église a pris le pouvoir temporel, alors qu'elle devait avoir un pouvoir spirituel. Et l'Église est devenue une puissance temporelle et a voulu régner sur les rois, sur les princes, etc. Et est entrée aussi dans la politique. Là, je ne calomnie personne, parce que c'est des choses que j'ai entendues d'orateurs prestigieux du catholicisme même qui reconnaissaient que tout cela venait de ce moment-là. Parce que ce qui est confié aux hommes, lisez l'écriture depuis la première page à la fin, c'est toujours corrompu. Quand ce qui est donné entre les mains des hommes, au lieu de conserver les choses pour la gloire de Dieu, on dévie. Et c'est toujours quel péché qui monte dans notre cœur ? L'orgueil. Et nous sommes tous menacés de cet orgueil. Alors, il y a eu des schismes, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire ecclésiastique, et puis, et forcément, il y a toujours un résidu, parce que Dieu est fidèle, et il a conservé au sein même du romanisme des hommes fidèles, ce qu'on appelait les pères de l'Église, qui ont essayé de ramener aussi les vérités de l'Évangile, toujours en avant, mais il n'y avait pas encore l'imprimerie, le peuple, il était surtout servi par les images, c'est pour ça que quand vous êtes contre les images, mais dites-vous bien qu'il en fallait des images, les peuples ne savaient pas lire. Mais dites-vous bien qu'il en fallait des images, les peuples ne savaient pas lire. Alors on leur représentait tout cela en images. Et moi, qui vais souvent à Florence pour les camps, j'aime beaucoup me replacer devant le baptistère de Florence, où vous commencez, c'est un baptistère octogonal, et c'est gravé en or, et bien vous voyez depuis la Genèse, puis quand vous finissez, vous êtes à l'Apocalypse. Quand je m'en vais à Paris, si vous allez voir une certaine église, eh bien, vous avez aussi, vous pouvez prendre un micro et vous commencez par là, puis vous faites tout le tour de l'église avec des vitraux, et vous avez toute la Bible, toutes les histoires bibliques. Il fallait bien qu'on enseigne au peuple la parole. Il n'y avait pas encore l'imprimerie. Alors, soyez un peu équilibrés et remerciez le Seigneur de ce que nos ancêtres ont pu avoir une connaissance de l'Écriture. Mais quant à adorer les images, c'est une autre affaire. Mais il y a eu des hommes qui ont vu toutes sortes d'abus, puis on a commencé de construire des cathédrales, des chapelles, il fallait de l'argent dès qu'on veut faire des grandes choses. Mais tout était pas si fou dans la pensée, il n'y avait rien de trop beau pour le Seigneur. Tandis qu'aujourd'hui, Seigneur, ça te suffit. Il se contente de tout. Mais là, les cathédrales ont été des chefs-d'œuvre, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait, alors qu'il y avait des pauvres. C'était pas du tout. On s'était éloigné de la simplicité du Christ. Le Christ, lui, qu'est-ce qu'il avait comme salle? Une crèche pour naître, un âne emprunté pour le porter, la barque d'un apôtre. Il n'avait rien à lui. Et puis, une salle providentielle pour y célébrer la scène. Mais il était un étranger et un voyageur. Chez lui, c'était où? Dans le sein du Père. Où est-ce qu'il habitait? Dans le sein du Père. Alors, si nous voulons refléter la vie de Jésus, eh bien, nous devons suivre cela. Alors, il y a eu, par exemple, un homme qui était très tourmenté, un moine, qui s'appelait comment? Luther. Et qui voyait que pour avoir de l'argent, on en arrivait, pour pouvoir construire ces églises, à l'histoire des indulgences. Et on envoyait des prêtres partout pour dire, si vous donnez pour l'église, vos péchés sont pardonnés. Ce qui a fait dire à Victor Hugo, même si tu donnes assez, on te payera une messe, si tu payes assez, on fera une messe pour ton chien. N'est-ce pas? Bon, il y en a qui seraient contents. Parce qu'ils espèrent bien retrouver leur chien au ciel. J'ai entendu un docteur en théologie qui m'a dit, vous voulez quand même pas me dire que j'aurai pas mon chat au ciel. Oui, les sentiments. On aime tellement son chat. Il m'a pas dit qu'il désirait sa femme. Mais son chat, ça griffait moins. Ça peut arriver, hein. Je vous dis des choses que j'ai vécues, hein. Parce que vous savez, je sais aussi rire. Puis j'écoute. Alors, il y a les schismes. Et tout à coup, pour combattre ces schismes, on a voulu définir les dogmes. Et là, je cite encore un auteur catholique, il dit, on est tombé dans ces barbarismes. Au lieu de prendre les mots simples, on a voulu expliquer des mystères et on a sorti, au concile de Trente, on a sorti quoi? La transsubstantiation. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'Eucharistie, on a trouvé ce beau mot transsubstantiation. Je ne vais pas m'allonger là-dessus, c'est au concile de Trente en 1564, ça avait commencé en 1563, ça a fini en 45 et ça a fini en 63, un des grands conciles, Trente c'est une ville du Tyrol, transsubstantiation. La doctrine qui a été retenue, c'est que les paroles du Christ doivent être prises au sens littéral et matériel. Et par la consécration, le pain et le vin deviennent corps et sang du Seigneur. Il y aurait bien d'autres choses que l'on pourrait développer là-dessus, mais je m'arrête. Et alors, ensuite, c'était surtout par réaction contre un certain protestantisme, mais Luther, lui, eh bien, il était d'origine catholique, il ne voulait pas sortir de Rome, mais on l'a excommunié. Alors, lui et sa doctrine, et c'est encore la doctrine luthérienne, il a trouvé le mot consubstantiation. Donc, il vivait en 1483 jusqu'en 46, doctrine suivant laquelle, dans l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ sont présents d'une manière réelle et substantielle, conjointement au pain et au vin. Il y a le pain, il y a le vin, mais consubstantiellement, il y a le corps et le sang du Seigneur. Doctrine luthérienne. Et j'avais dit aussi l'Église orthodoxe, séparée de Rome en 1054, et qui conserve les sept sacrements de l'Église romaine. Vous les connaissez, vos sept sacrements? Alors, tous ces bons catholiques, vous l'avez tous été à peu près. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'extrême onction, l'ordre et le mariage. Bravo, bravo, bravo. Vous n'avez pas tout oublié. Et alors, les protestants, eux, ils en ont gardé combien? Deux. Puis il y en a qui n'en ont pas gardé du tout. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas un sacrement. Mais les deux qui sont généralement reconnus dans le protestantisme, c'est le baptême et l'Eucharistie, c'est-à-dire la Sainte Cène. Et alors, en dehors de Luther, dans la Réforme, il y a spécialement Ulrich Zwingli, qui était un réformateur suisse, qui vivait en 1484 jusqu'en 1531, qui a donc connu Luther. Pour lui, la scène, c'était une commémoration symbolique. Il n'admet pas la présence corporelle, mais croit à la présence spirituelle du Seigneur dans la scène rappelle la mort expiatoire du Christ. La scène rappelle, selon Zwingli, la mort expiatoire du Christ, mais il croit à une présence spirituelle et non pas corporelle. Puis, Calvin, alors, qui a beaucoup influencé ce qu'on appelle maintenant l'Église réformée, eh bien, il vivait en 1509 jusqu'en 1564. Il est né à Noyon, en France, mais il a été chassé, il a été à Strasbourg, puis après il a été où?
À
Genève. À Genève. Et il a beaucoup influencé, il a gouverné en quelque sorte un temps Genève, mais il a été aussi, il a eu pas mal de misère. Mais lui, il croyait à la présence réelle, spirituel dans la scène. Et il affirme aussi la réelle participation au corps et au sang du Christ, mais par la foi. N'est-ce pas? C'est plus clair encore que Zwingli, parce que ça peut être que symbolique, et voilà, on sait plus ce que c'est qu'un symbole. C'est pour ça que j'aime pas toujours tellement ce mot symbole. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui établit cette communion à la table du Seigneur. Le Saint-Esprit établit, si nous sommes vraiment en relation avec Dieu, une communion réelle au corps et au sang du Seigneur. Puis alors, je parlais de l'anglicanisme, schisme qui eut lieu sous Henri VIII en 1534, entre le roi d'Angleterre et Rome, au sujet d'un divorce, d'un mariage, je n'entre pas dans les détails, et là, c'est une voie moyenne entre le catholicisme et le protestantisme strict. On peut trouver de chers frères avec lesquels on est en parfaite communion avec les anglicans, et puis d'autres qui ne croient pas à certaines choses aussi. Alors, nous ne jugeons pas, j'ai simplement voulu vous donner une information pour que vous-même, c'est pas parce que je pense que vous ne savez rien, c'est pas ça, mais comme je l'ai dit, j'essaie toujours de parler pour ceux qui n'ont peut-être pas eu le privilège de savoir certaines choses. Alors c'est écrit. Alors maintenant nous avons encore un petit quart d'heure pour commencer, puis après vous aurez votre détente. Et vous pourrez aller remanger. On a parlé des repas et que vous n'avez pas peur de grossir. Eh bien, nous allons prendre les premières questions, si ça ne vous dérange pas trop. Alors, vous voyez, question, page 8. Quand Jésus a-t-il institué la scène maintenant? La nuit où il fut livré. Mais cette nuit où il fut livré ne nous dit pas la date. La nuit où il fut livré. Mais les évangiles sont tous d'accord, c'est dans cette nuit-là qu'il a institué la scène. Ça, c'est très clair. Et alors, s'agissait-il d'un vrai repas pascal? Est-ce que c'était la fête de Pâques? Oui, je ne parle pas de Pâques de la résurrection, mais c'était la Pâques pour les Juifs, où on célébrait le 14 de Nisan, selon ce qu'on a vu hier soir, Exode chapitre 2, l'agneau pascal, n'est-ce pas, l'agneau qu'on appelait la Pâque, le sang était mis entre les deux soirs, on égorgeait l'agneau, on mettait sur le linteau et les poteaux des portes, et puis on mangeait l'agneau rôti à l'intérieur. Et cette nuit-là, le Seigneur allait passer sur l'Égypte, mais là où il n'y avait pas de sang, il frappait de mort les aînés des Égyptiens, les fils aînés, pas parce qu'il les aimait pas, mais parce que le Pharaon ne voulait pas laisser sortir son peuple. Alors Dieu doit frapper plus fort. C'est là qu'il est dit, n'est-ce pas, quand les jugements viennent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. C'est dans le contexte du verset que je vous ai mis là. Il faut que Dieu frappe. Je ne dis pas que ces Égyptiens ont été perdus, les enfants, mais ils ont été frappés de mort, parce que les parents, ils n'avaient pas mis de sang. Mais les parents israélites ont cru et ils ont mis le sang. Donc, et Dieu a dit qu'on devait faire cette Pâque en mémorial, année après année, de ce qui s'était passé, de cette grande délivrance. Alors, vous avez lu les évangiles, vous avez lu l'épître de Paul, de sorte que vous savez qu'il s'agit d'un vrai repas pascal. Alors, quelles ont été les paroles de Jésus au moment de l'institution dans ce repas? Faites ceci en mémoire de moi, dans Luc. Il a pris du pain et il l'a rempli en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Alors, est-ce qu'il s'est arraché les chairs pour donner sa chair à manger? Ceci, qu'est-ce que c'était? Ce qu'il avait dans sa main. Et qu'est-ce qu'il avait dans sa main? Du pain. Il avait pris le pain, comme il a donné beaucoup d'images. Quand il dit je suis le vrai cep, vous n'allez pas me dire que Jésus a un cep de vigne. Mais il prend l'image, je suis le cep, parce que c'est du cep que sort la vie, la semence qui va entrer dans les sarments. C'est une expression de langage. C'est un langage littéraire. Alors nous devons comprendre cela. Et si on en reste là, eh bien, c'est simple, et les plus jeunes comprennent, n'est-ce pas? Ceci est mon corps. J'ai employé l'image du tuyau. Si je vous dis, on m'a donné un bon tuyau pour telle chose, vous ne pensez pas, Mr. Racine, à un tuyau en main, n'est-ce pas? Mais là, c'est une image que j'emploie. Mais il prend le pain. Alors, il y a un élément visible, c'est vrai. Le pain, qui est formé de quoi? Où est-ce qu'il a commencé le pain, au fond? Dehors, dans les champs. par les grains de blé. Et qui a été le premier grain de blé qui a donné naissance à un épi? Pourquoi est-ce que Jésus disait, si le grain de blé demeure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Prenez un grain, comme je l'ai dit souvent, vous le mettez dans un écrin. Dans une année, combien il y aura de grains? Même si vous enlevez la poussière tous les jours. Il y aura un seul grain. Mettez-le dans la terre, il y en aura 30, 60, 100. Alors, tous ces grains de blé qui ont formé les épis ont été fauchés, on a broyé les grains, et ça est devenu de la farine. Puis ensuite, cette farine, on l'a pétrie et on l'a mis au four, et ça a donné un pain, n'est-ce pas? Il peut y avoir pain sans le vin, ou il peut y avoir le pain avec le vin, mais c'est ce symbole que plusieurs grains qui étaient avant disséminés sont devenus un seul pain. Et si vous avez lu le chapitre 10 de la première épître aux Romains, hein, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, un seul pain. Comme il y a un seul pain, c'est l'image, le pain est l'image du corps. Nous ne sommes plus des individus isolés, mais nous formons un corps. Nous sommes unis les uns aux autres aussi réellement que les grains de blé sont ensemble. Mais pour que les grains de blé soient vraiment unis, qu'est-ce qu'il a fallu? Qu'ils soient broyés. Et les chrétiens qui ne sont pas broyés, ils ne vont pas vers l'unité. Mais ils s'isolent de plus en plus. Alors, gardons-nous de nous isoler. Celui qui se tient à l'écart, il recherche ce qui lui plaît. C'est un verset qui m'a toujours impressionné. C'est pourquoi je désire ne pas me tenir à l'écart, mais être avec les enfants de Dieu, en communion le plus possible avec tous. Eh bien, que la grâce nous soit donnée. Mais vous connaissez donc les paroles du Seigneur, et les paroles qu'il a prononcées à l'institution aussi. Ceci est mon sang. Et qu'est-ce qu'il avait dans la main quand il dit ceci? Est-ce qu'il s'est enfoncé une aiguille? Alors qu'il a dit qu'il ne faut pas boire du sang. C'est l'écriture. Et Jésus respectait l'écriture. Il n'était pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Mais qu'est-ce qu'il avait dans la main? Une coupe. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang. C'est ceci, qu'est-ce qu'il faisait? Il l'a distribué entre eux en mémoire de moi, en vous souvenant de moi. Alors, il y a des signes visibles. Il nous a tellement aimés que nous qui ne l'avons pas vu, il a quand même voulu que nous ayons des signes visibles de son passage. Et il y en a qui disent, nous voyons, nos yeux voient, nos oreilles entendent ces paroles à la scène. Et notre odorat respire ce pain ou ce vin, cette odeur de vin. Et puis, nous mangeons le pain, nous connaissons le goût. Au fond, il a donné comme quelque chose pour nos sens, en quelque sorte. Il y en a qui voient cela surtout. Eh bien, oui, il nous a donné des signes visibles, des signes tangibles. Nous le tenons dans la main. Il y a le toucher, il y a l'odorat, il y a le goût, et il y a la vue. Tout cela fonctionne parce que Dieu ne méprise pas nos sens, mais il veut dominer nos sens. Donc, ce n'est pas quelque chose de uniquement symbolique. Et c'est surtout pas un mythe, et c'est quelque chose d'historique que nous faisons. Alors, nous arrivons à la question 4. Comment Jésus a-t-il interprété lui-même les paroles qu'il a prononcées? C'était ma première lecture. Les paroles que je vous ai dites sur manger sa chair, boire son sang, sont esprit et sont vie. Mais c'est un Dieu qui veut être à l'intérieur de nous, aussi réellement que je mange le pain, que je bois la coupe. Je confesse quand je prends la scène que je n'ai plus un Christ extérieur à ma vie, mais qu'il m'est devenu intérieur. Je l'ai reçu par la foi, et c'est pourquoi dans l'Église primitive, à la Sainte Cène, il y avait presque toujours cette parole liturgique, Maranatha, qui veut dire le Seigneur vient, n'est-ce pas ? Il y avait la présence réelle du Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'épiclèse, hein, quand on demande au Saint-Esprit de réaliser la chose. L'anamnèse, c'est se souvenir du Seigneur. C'est cela que veut dire anamnèse, et puis l'épiclèse, c'est quand on demande que l'Esprit vraiment soit là pour toucher nos cœurs d'une façon vraiment profonde. Mais nous n'allons pas employer des mots dits barbares. Hein? On veut rester dans la simplicité du Christ. Alors, on arrive à la question 5. A-t-il donné l'ordre à ses disciples de répéter ce qu'il faisait pour les siens dans la nuit où il fut livré? Oui, vous êtes d'accord? Parce que qu'est-ce qu'il dit? Faites ceci en mémoire de moi. Et c'est dit une fois dans Luc, hein, et puis dans 1 Corinthiens 11, toutes les fois que vous mangez ce pain, vous buvez à la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc toutes les fois, ça veut dire que ça va se renouveler. Hein. Il a donné ce commandement, donc, de le faire. Et l'Église primitive l'avait bien compris, de sorte qu'il communiait au début dans l'Église primitive tous les jours, chaque jour. Et Wiener, un grand théologien protestant de Suisse, pour lequel j'ai aussi beaucoup d'admiration, il est mort avant 50 ans, il y a sa statue à Lausanne, il a beaucoup écrit. Il disait qu'il aimerait que tous nos repas deviennent des eucharisties, des actions de grâce. Et c'est vrai, quand on est à table, on devrait y penser au Seigneur. Mais, bon, parce que, il y a une chose, ça ira plus loin là, il ne faut pas que je me trompe, hein. Je ne veux pas devancer. Mais il y a quelque chose de très sanctifiant dans tout cela. Alors, on en est à quelle question? 7, hein? C'est quel est le sens de « Faites ceci en mémoire de moi » répété deux fois par Paul et une fois par Luc? Bien, le Seigneur voudrait qu'on se souvienne de son sacrifice, que nous avons été rachetés à un grand prix. Et voyez-vous, c'est tous les jours qu'on devrait y penser, même si on ne prend pas la scène tous les jours. Ce sacrifice, si je vis, c'est à cause d'un homme qui est mort pour moi, et c'est Jésus. Eh bien, et en même temps, on le fait jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire qu'on l'attend. On attend son retour. On le fait dans l'espérance. Et chaque fois qu'on prend la scène, on renouvelle quoi? Notre espérance. Il vient. C'est peut-être la dernière fois que je prends la scène, parce qu'après on ne la prendra plus. Hein. Quand il sera venu, on n'aura plus besoin de la scène, on verra l'agneau qui a été immolé. Alors, c'est qu'entendait Jésus par l'expression « la nouvelle alliance en mon sang ». Quelle avait été la première alliance de grâce que Dieu a faite? Avec quel homme il a fait l'alliance de grâce? Avec Abraham, n'est-ce pas? C'est ça la première alliance de grâce. Mais ensuite, cette alliance qui était sans condition, je te bénirai, tu seras en bénédiction, alliance sans condition, le peuple a été en Égypte, et puis Moïse a été suscité, et le peuple a prétendu qu'il voulait suivre les voies de Dieu, la loi de Dieu, et il y a eu comme, si vous voulez, un renouvellement de l'alliance. Jusque-là, le Seigneur leur dit, vous avez vu comment je vous ai porté jusqu'à ce jour. De maintenant, le peuple dit, eh bien, que Dieu nous dise ce que nous devons faire avec précision. Et alors, il y a eu la loi qui a été donnée. Parce qu'il y avait la prétention dans le cœur des Israélites qu'ils pouvaient accomplir la loi. Et Dieu avait dit, faites ces choses et vous vivrez. Alors la loi a été donnée puisque vous prétendez que vous pouvez faire cela. Hein. Mais qu'est-ce que la loi a démontré? Vous ne pouvez pas le faire. La loi n'a rien amené à la perfection, mais c'est par la loi qu'est venue la connaissance de quoi? De ce qu'on ne veut plus nommer le péché. On est devenu de pécheurs qu'on était, mais on n'en avait plus conscience. On est devenu des transgresseurs, parce que la loi disait tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, etc. Tout ça. Et voilà qu'on est devenu de pécheurs, on est devenu transgresseurs. Et alors, cette alliance avait été faite par le sang, comme vous le voyez dans le Lévitique, mais et dans l'Exode, tout cela, par le sang de l'agneau. Et quand Jésus est venu, eh bien, tous ces agneaux, tout ce sang qui était des sangs d'animaux et qui devait apaiser la conscience, quand un homme avait péché, il mettait ses mains sur la tête de l'animal et il confessait ses péchés. Et qu'est-ce que le sacrificateur faisait? On égorgeait la victime. Mais il voyait que, au fond, c'est lui qui méritait la mort. Mais le sang des taureaux, des agneaux et des boucs ne pouvait pas ôter le péché. Mais il fallait le sang parce que sans réfusion de sang, c'est la règle, il n'y a pas de rémission. Et même les païens, et Vinet a écrit un discours merveilleux sur le sang sur les autels des païens, et la recherche même que la conscience des païens leur donnait, ils recherchaient une victime la plus innocente. Alors qu'est-ce qu'ils ont offert? Des enfants, n'est-ce pas? Ils sont arrivés en se disant, mais si on offre des enfants, eh bien, l'enfant, eh bien, ça apaisera la divinité à cause de nos fautes. Et ils offraient des enfants. Mais vous voyez le sang sur les autels, aussi bien d'Israël que des païens. Mais sur les autels d'Israël, c'était le sang des animaux. Mais en attendant, quel sang? Le sang de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le sang de Jésus, de l'homme incarné, du Dieu incarné, parfait. Dieu avait en vue au temps convenable, quand l'homme aurait fait faillite et serait convaincu de péché, qu'il ne peut pas s'en tirer par lui-même, Dieu allait lui donner le salut par le sang de l'agneau. Alors Jésus dit, c'est ici la nouvelle alliance en mon sang. Alors c'est très précieux de voir ce qui est dit dans Matthieu, qui écrit pour des Juifs, qui est donné en rémission des péchés de plusieurs. Hein. Tandis que dans Luc, il est dit qu'il est donné en rémission pour les péchés de vous tous. C'est les païens aussi, hein. Vous tous. Tandis que Matthieu, la rémission des péchés est donnée pour plusieurs. Et qui sont ces plusieurs? Les premiers Juifs qui se sont convertis, mais ceux qui, après l'enlèvement de l'Église, si nous y croyons, les Juifs devront passer par la grande tribulation, et il y en a qui se convertiront et qui seront sauvés par le sacrifice de qui? De Jésus, parce qu'il est dit que la conversion du peuple d'Israël sera une conversion tout à fait spéciale. Ils se tourneront vers celui qu'ils auront percé. Ils n'ont pas même besoin du Nouveau Testament, quoique maintenant on le distribue beaucoup en Israël, pour se convertir. Ils se tourneront vers celui qu'ils auront percé et ils se lamenteront. Et ils seront sauvés par la rémission de ce sang. Il a été versé à la Pâque, là, en rémission des péchés de plusieurs. Et c'est ça, la nouvelle alliance pour les Juifs, en son sens, le sacrifice a déjà été accompli. Et quelle sera cette alliance? Vous l'avez dans le chapitre de Jérémie. Voyons, Jérémie, qui connaît le verset? Avec toutes mes Bibles, moi. Je l'ai noté. Chapitre 32, la Nouvelle Alliance. Au 31. Alors, quel verset?
31.
Oui, c'est le chapitre. Ah oui, oui. Verset 31?
Oui.
Oui. Promets-moi avec mes lunettes. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, et j'établirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Non selon l'alliance que je fis avec leur père au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Là, vous voyez que c'est la loi qui a été donnée. Mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je les ai eus épousés, dit l'Éternel. Car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Donc avec la maison d'Israël, c'est pas fini. Il y a bien l'Israël de Dieu et nous sommes l'Israël de Dieu dans l'Église. Mais je crois qu'il y a une vocation particulière pour Israël qui reste le peuple de Dieu. Il y en a qui ne pensent pas, mais si je veux prendre tous les textes de l'Écriture et que je crois à l'inhérence des Écritures, je ne peux pas en supprimer. Et il y en a et qui concernent vraiment Israël. Et vous verrez que les événements qui se produiront confirmeront tout cela. Mais Israël sait qu'ils vont au-devant d'une grande tribulation. Ce n'est pas par le moyen de l'Église qu'ils peuvent se convertir. Croyez-le bien. Ils sont écœurés de ce qu'ils voient dans l'Église et de ce qu'on voit à Jérusalem, de toutes ces disputes. Ils sont écœurés. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu l'Inquisition, ils ont eu l'Holocauste, le Shoah, tout ce que vous voulez. Alors, c'est difficile pour nous d'aller leur parler du Seigneur. Mais pourtant, il y en a qui se convertissent au Seigneur et alors qu'ils font partie de l'Église. Mais il reste une promesse pour ce peuple. Et cette nouvelle alliance, eh bien, le Seigneur a déjà versé son sang pour cela. Et qu'est-ce que ce sera, cette alliance? Eh bien, verset 33. Car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ben, ça devrait être déjà pour nous. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'enseigneront plus chacun son prochain et chacun son frère disant « Connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous, depuis le petit d'entre eux jusqu'au grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Donc le sang de la nouvelle alliance concerne aussi bien Israël, mais alors si vous prenez Luc, ça concerne les païens. Et Luc était le disciple de Paul. Il y a là des choses à sonder. Sondez les Écritures, c'est en elles que vous estimez avoir la vie éternelle. Alors, peut-on voir dans la scène une actualisation ou une représentation du sacrifice de Jésus? Attention au mot. Nous n'avons pas dit un renouvellement du sacrifice de Jésus. Mais, quand on prend la scène, au fond, le sacrifice unique de Jésus, qu'on verra après la descente, qui a été fait une fois pour toutes, il est rendu actuel. On est rendu en face de ce sacrifice, le pain rompu, sa chair meurtrie, son sang versé sont devant nos yeux et au fond il y a une actualisation de ce sacrifice de Jésus qui nous est rappelé. Il s'est donné pour moi. Et son sacrifice, il s'est donné tout entier. Alors, si j'ai communion avec lui, qu'est-ce que je devrais faire moi aussi? Me donner tout entier. Est-ce que j'ai besoin de me souvenir de cela une fois par année? Est-ce que je peux m'habituer? Est-ce que je peux faire ce geste quand il est question vraiment du sacrifice? C'est pourquoi le sacrifice de Jésus est rendu présent à la scène. Il n'est pas renouvelé, on va le voir plus loin, parce que j'en reste à l'écriture, mais ce qu'on a oublié, moi ça me navre de voir que bien souvent les gens prennent le morceau de pain. Et on ne voit pas ce silence intérieur, on ne voit pas ce travail qui doit se faire dans nos cœurs. Et je vous dirai, moi, pour finir, que c'était la bénédiction de ma vie. J'ai pris la scène à l'âge de 14 ans, depuis l'âge de 14 ans. Et quand on m'a excommunié, c'était quelque chose d'épouvantable, parce que je dois dire que j'ai été excommunié à l'âge de 30 ans, jusqu'à 30 ans. C'est vraiment la pensée de « faites ceci en mémoire de moi » qui m'a gardé de bien des chutes et de bien des péchés. Parce que je ne voulais pas apporter une souillure à la table du Seigneur où l'on communiait tous les dimanches. Et je disais non, je peux tenter à ceci, en tenter à cela, je suis un homme comme un autre, mais je veux rester pour pouvoir me souvenir du Seigneur. Parce que ce serait pas bien, on a fait une faute, on ne vient pas communier. Hein? On s'abstient. On vient d'être au culte, mais l'Eucharistie, la Sainte-Seine, c'est pas regarder quelque chose, c'est participer à. Comprenez-vous? Et puis, si vous preniez la scène tous les jours, le soleil ne se coucherait pas sur votre irritation. On demanderait pardon à sa femme avant. Peut-être, si c'est dans la famille. Et puis, si on apprend tous les dimanches, nos disputes, il y a toujours des disputes, il y a toujours des heurts, des blessures. Ça ne devrait pas durer plus d'une semaine. Je dis pas, oh ben non, je n'ai pas pu voir ce frère, puis il n'est pas même venu me voir, il n'est pas venu me demander pardon. Pourquoi est-ce que moi j'irai pas à sa rencontre? L'Écriture m'enseigne tout cela, de sorte qu'il y a un renouvellement. Et quand on nous dit que c'est trop dangereux ou trop compliqué, on complique tout. Alors c'était la simplicité. Et donc je voudrais que ce soit une joie, et que ce soit une fête, et que ce soit une libération, une déculpabilisation, si ce n'est pas quotidienne, au moins, comment est-ce qu'on dit, aidez-moi,
hebdomadaire.
D'accord, bon, merci. Alors je vous laisse appeler pendant un moment. Vous avez le...